bonjour, grand merci pour votre importante participation, vous êtes très nombreux. Bon, avant toute chose, je voudrais remercier l'agence pour la confiance qu'elle nous a accordée à Luc et à moi de réaliser ce travail avec trois groupes d'analyse, donc d'appliquer la méthode d'analyse en groupe pour l'analyse, la réflexion concernant la mise en œuvre de la démarche qualité dans les établissements d'enseignement supérieur, la confiance que l'agence nous a accordée dans tout ce travail, dans tout ce processus, et le soutien aussi par rapport à la production des rapports, etc., et la publication de ce rapport que vous avez reçu. Je voudrais évidemment remercier aussi tous les coordinateurs qualité, coordinatrices qualité des établissements d'enseignement supérieur qui ont participé à ces trois analyses en groupe. Donc ils étaient 22. Le travail qu'ils ont fait avec nous, la confiance qu'ils nous ont accordée. Je rappelle, sans pouvoir m'apesantir dans les détails de la méthode d'analyse en groupe, vous en trouverez une explication succincte dans le rapport, que bon, une analyse en groupe, ça dure 2 jours. Donc voilà. Donc les personnes qui ont participé aux analyses en groupe, ils ont consacré 2 journées à faire ce travail d'analyse. Alors la méthode d'analyse en groupe, très brièvement, vous trouverez plus d'infos dans le rapport. C'est une méthode donc, qui mobilise des récits d'expérience. Il y avait donc 27 participants en tout, 22 participants venant des établissements d'enseignement supérieur et 5 personnes travaillant à la cellule exécutive de l'agence. Donc il y a eu en tout 27 participants dans ces trois analyses, ce qui veut dire concrètement comme matériaux de base, comme entrée dans l'analyse, 27 propositions de récits d'expérience, puisque ce qu'on travaille dans l'analyse en groupe, ce sont des récits d'expérience apportés par les participants. Donc les 27 participants ont proposé donc 27 récits. Ils ont fait donc des bandes annonces de récits et ils ont leur proposition de récit a reçu un nom, un petit titre. Je ne vais pas pouvoir vous donner tous les titres de ces 27 récits, vous les trouverez dans le rapport, mais vous verrez qu'ils sont très parlants et très significatifs déjà du contenu des récits. Alors, que peut-on dire de ces 27 récits avant de nous concentrer sur les 6 récits qui ont été analysés en profondeur par les participants, donc, puisque en fait il y a des votes, les participants proposent un récit, puis après ils votent et ils choisissent. Par analyse, on choisit 2 récits qui vont être travaillés en profondeur durant les 2 journées. Et il est déjà très intéressant de synthétiser par leurs titres, mais aussi par les plaidoyers, les explications et les propositions de récits. On peut déjà saisir, avoir un panorama des thématiques principales qui étaient apportées par les participants pour problématiser la question de la mise en œuvre de la démarche qualité dans les établissements. Bon, l'examen, en effet, de ces 27 propositions de récit montre que dans un contexte politique en mutation et dans un cadre institutionnel doté d'une culture spécifique, et c'est un élément important qui reviendra souvent, la principale question que se posent les coordinateurs qualité ou agents qualité, le nom diffère selon les établissements, c'est celle de la légitimité. Légitimité tant de la démarche qualité elle-même, ses enjeux, son sens, sa finalité, que des acteurs qui portent cette démarche, en particulier l'agence, les services ou cellules qualité et même les coordinateurs, agents qualité qui exercent cette fonction, ainsi que les membres de la direction ou de l'équipe dirigeante des établissements. Ça, c'est vraiment cette thématique de la légitimité des différents types d'acteurs et de la démarche elle-même et de son objet, elle est vraiment transversale à toutes les propositions de récit qui ont été apportées par les participants. 10 propositions de récits sur les 27 ont surtout mis en évidence les résistances et les difficultés de mobilisation des équipes enseignantes qui découlent de malentendus et de conflits de représentation concernant les objectifs, mais aussi peut-être surtout les enjeux en termes d'effets et d'usage de l'évaluation de la qualité, que certains nous ont participants ont même présenté comme externes et importés dans un cadre institutionnel spécifique. 10 autres propositions de récit ont mis principalement en lumière le décalage entre l'intensité du travail requis par les acteurs impliqués dans la production de l'analyse et du diagnostic qualité et la réticence, la lenteur, voire l'impossibilité à s'engager dans l'action vers le changement. Et ce, pour diverses raisons, étroitement combinées. L'épuisement des personnes qui se sont mobilisées pendant une longue période, l'enlisement de la démarche dans le procédural et le formalisme, l'ambivalence des autorités dirigeantes à l'égard de la démarche, ainsi que l'absence d'une vision claire du changement projeté par cette direction ou par les autorités, ou bien d'incitation explicite à agir vers le changement de la part des autorités dirigeantes. Enfin, les 7 dernières propositions de récit ont envisagé plus particulièrement les tensions, les conflits, les empêchements qui peuvent résulter d'un manque de clarté des mandats, des missions et des rôles des différents types d'acteurs impliqués dans le processus, en particulier les coordinateurs qualité, mais aussi les experts et les dirigeants institutionnels, et aussi donc le manque de clarté sur les usages explicites ou implicites qui peuvent être faits ou qui sont imputés à la démarche d'évaluation. Ça, c'est donc les 27 propositions de récit qui posent déjà le cadre. Mais donc, comme je l'ai dit, nous avons analysé, lors des 3 analyses en groupe, nous avons analysé en profondeur, je dis nous, parce que ceux qui analysent, ce ne sont pas les chercheurs, ce sont les participants. Donc, à l'occasion de tours de table, et la méthode consistant à partir de ces tours de table, donc des interprétations des récits qui sont proposés, aboutissent à l'établissement de tableaux des divergences et des convergences entre les interprétations des différents participants. Alors, parmi les 6 récits choisis pour les analyses approfondies, 3 récits, et pour ceux-là, je vais donner les titres de ces récits choisis par les narrateurs, concurrence inter-réseau, collège de direction contre service qualité, les experts face à une salle vide, donc des titres déjà tout à fait significatifs. Donc ces 3 récits portent sur l'amont du processus d'évaluation pour chercher à expliquer les difficultés, voire les blocages intervenus dans le déroulement du processus, ainsi que les effets de délégitimation qui en résultent. Les 3 autres récits, dont les titres sont tout aussi significatifs, « Ouf, c'est fini », « Un monde de papier » et « Percolation institutionnelle », donc ces 3 récits se concentrent quant à eux sur l'aval du processus pour tenter de mettre en évidence les différentes raisons, aussi bien méthodologiques qu'institutionnelles, qui rendent problématique, voire empêchent, le passage à l'action à l'issue de la phase de diagnostic. Et est examiné dans ce cas-là aussi l'impact qui en découle en termes de délégitimation de la démarche. Donc, mon travail, et c'est la deuxième partie du rapport qui a été donc publié par l'agence, hein, c'est donc de proposer une analyse transversale des tableaux des divergences et des convergences qui ont été établis à l'occasion des analyses en groupe, des analyses des 6 récits. Donc il y avait 6 tableaux de divergence et de convergence. Et donc, je tiens quand même à signaler que le verbatim, donc la retranscription quasiment intégrale des analyses en groupe, a été transmise donc à tous les participants et ils ont eu l'occasion de faire remarquer des éventuelles erreurs d'interprétation, de compréhension. Donc tout le verbatim a été transmis à tous les participants. Ici, je propose donc une synthèse de toutes ces analyses et une analyse transversale des 6 tableaux de divergence et des convergences qui ont été émergés de l'interprétation des récits. En organisant donc de manière thématique toutes ces divergences et convergences, ont émergé 4 grands objets de questionnement qui, donc quel que soit le récit qui ont été apportés et analysés, on trouve dans les tableaux des divergences et des convergences les mêmes 4 grandes thématiques. Et il s'agit d'une part, premièrement, le thème de la représentation, du sens et de la finalité de la démarche d'évaluation qualité. Deuxième grand thème, objet et méthodologie du processus d'évaluation. Le troisième grand thème, c'est la vision, le rôle, la place et la responsabilité des acteurs de la qualité dans l'institution. Et le quatrième thème, c'est celui des causes et des effets externes et internes de l'évaluation qui peuvent expliquer des difficultés de mise en œuvre. Donc, hein, on a mobilisé régulièrement causes externes, causes internes. Donc, ce sont ces quatre axes thématiques déclinés en sous-thèmes que je vais brièvement vous exposer, qui constituent les principales tensions qui semblent caractériser aujourd'hui la mise en œuvre de la démarche d'évaluation de la qualité dans les établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, examinons d'abord le premier grand thème, donc celui de la question de la représentation du sens de la finalité de la démarche d'évaluation de la qualité. Il y a deux grands axes de questionnement qui ont traversé les interprétations et les divergentes et convergentes autour de ce grand chapeau. C'est premièrement l'interrogation, mais se mobiliser dans les établissements pour la démarche qualité, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pour qui ? Pourquoi faire ? Et grand point, c'est les différentes explications qui ont été avancées par les participants pour expliquer les difficultés de la mobilisation. Parce que s'il y a bien eu vraiment une convergence très 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 forte entre les participants des trois analyses en groupe, c'est sur le constat d'une absence de consensus dans les établissements sur le sens de la démarche qualité. Et que cette absence de consensus sur le sens de la démarche est un facteur explicatif important de la difficulté de mobiliser les équipes et de les motiver à s'engager dans la démarche. Surtout dans la durée, puisque c'est une démarche qui s'inscrit dans la durée. Alors pourquoi cette participation est si problématique ? Deux registres explicatifs ont été proposés. D'une part, l'explication en termes de peur des sanctions. Ce matin, on a encore parlé de cette question des sanctions. Une autre explication qui a été avancée aussi, sans surprise peut-être, mais qui a été beaucoup discutée, c'est l'explication en termes de la fameuse résistance au changement. Alors, pour ce qui est de la peur des sanctions, le constat a été fait quand même par de nombreux participants que l'évaluation suscite de la défiance, voire de la crainte, parce qu'elle est assimilée, ressentie comme du contrôle pouvant conduire à des sanctions à l'égard des personnes comme des établissements. Mais l'idée d'une peur des sanctions a quand même fait l'objet de pas mal de divergences entre participants. Certains estimant même que c'est parce qu'il n'y a précisément aucune sanction à l'issue de l'exercice que les enseignants justifient leur désintérêt pour la démarche. D'autres, par contre, ont dit que ce discours sur la peur relève d'une projection qui dissimule le fait que derrière la peur, il y a un manque d'adhésion et de clarté sur le but poursuivi par la démarche qualité au sens de compréhension de ces enjeux. Donc, c'est vraiment l'insistance sur l'idée que les enjeux ne sont pas explicités, et notamment la question de savoir par qui, comment la qualité est définie et mesurée, et si cette finalité est purement interne, donc en rapport avec le projet de l'établissement, ou si elle est envisagée de façon plus globale au niveau du système. De même, au constat du manque d'implication dans le suivi des exercices d'évaluation, et on va y revenir, parce que le processus est chronophage et énergivore, a-t-on entendu dire plusieurs fois dans les analyses en groupe, une divergence forte a quand même été formulée concernant les objectifs et le modus operandi du processus. Souvent sont revenues les questions, mais qui a défini les objectifs ? Comment a-t-on procédé à cette définition ? Quelle est la légitimité des membres qui composent les cellules qualité ou qui siègent dans la commission d'évaluation interne des établissements ? Comment ont-ils été désignés et par qui ? Alors, il y a cependant eu des divergences qui ont été formulées lors des trois analyses en groupe par rapport à cette idée qu'il y a un défaut d'explicitation des objectifs. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Certains ont insisté pour dire qu'il y a un manque de préoccupation pour la question du sens et de la finalité qui a été observée dans les établissements, et que donc la question de cette question des enjeux, des objectifs n'est pas une question principale. D'autres ont aussi dit qu'on ne pouvait pas toujours tout expliciter et qu'il y avait un poids important de l'implicite dans le fonctionnement institutionnel et qu'il était illusoire de penser que l'on peut tout dire et tout discuter partout, tout le temps. La question de la résistance au changement qui a été invoquée par certains participants a elle aussi fait l'objet d'objection forte selon l'idée que si on résiste, ce n'est pas sans raison, qu'il y a des raisons d'être défensif, et a été invoquée aussi très régulièrement dans toutes les analyses en groupe l'idée qu'on ne pouvait pas tenir une analyse générale et des explications générales sur les difficultés de mobiliser parce qu'il fallait absolument contextualiser et que d'un type d'établissement à un autre, les choses étaient tellement différentes en termes de conditions de travail, de culture organisationnelle, qu'il était extrêmement difficile d'émettre des généralités. Pour ce qui est de la méthodologie du processus d'évaluation, ce sera beaucoup plus détaillé dans le rapport, et vous pourrez lire toutes ces analyses un peu plus en détail. Ce qui ressort très fort du débat qui a été récurrent dans toutes les analyses sur la question, sur la méthodologie de la démarche d'évaluation, c'est que l'outil, on a entendu dire très souvent, l'outil est lourd, difficile à s'approprier. Le mot outil n'étant d'ailleurs pas toujours très simple à déchiffrer, dans le sens où on s'est rendu compte dans les échanges qu'il désignait de manière générale soit le référentiel d'évaluation, soit le dispositif global de l'évaluation. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une sorte de consensus pour dire que l'appropriation de l'outil par les acteurs au sein des établissements est très variable et qu'elle est assez problématique. Une grande crainte qui a été exprimée aussi, c'est que l'outil est devenu au fil du temps une sorte de norme, une contrainte. Mais surtout, sur le plan méthodologique, l'élément le plus convergent entre toutes les analyses en groupe, c'est l'idée que la méthodologie, les problèmes liés à la mise en œuvre de la méthodologie se révèlent surtout par le passage à l'action qui est extrêmement problématique. On dit que la méthode entraîne les acteurs concernés par l'évaluation à beaucoup mettre l'accent sur une phase de la démarche qui est la phase diagnostique, à mettre tout le paquet de l'attention et de l'énergie sur le diagnostic et à beaucoup négliger ce qui se passe en amont et ce qui se passe en aval, et notamment à consacrer aussi beaucoup de temps et d'attention à l'élaboration du plan d'action. Une autre remarque qui a été faite de manière assez convergente dans les analyses en groupe sur la méthodologie, précisément sur le plan d'action, c'est de dire que souvent ces plans d'action sont définissent un trop grand nombre d'actions et qu'ils sont liés à un diagnostic qui a tendance à trop souvent mettre l'accent sur ce qui ne va pas bien et pas mettre assez en lumière ce qui va bien. Et donc, tous ces facteurs sont démobilisants et n'encouragent pas à passer à l'action et à s'orienter vers le changement. Un autre point en termes méthodologiques aussi était la mise en évidence des problèmes de temporalité, de dire qu'il y a des... il est extrêmement difficile de tenir le processus dans la durée, notamment la participation des acteurs dans la durée, et de dire aussi qu'il y a des ruptures et des discontinuités dans le processus. Un point très important et très convergent dans les analyses en groupe, mais qui a quand même suscité aussi pas mal de discussions et d'oscillations et de divergences, c'est la question du rôle des acteurs et notamment le pouvoir et le rôle de la direction, la place des équipes dirigeantes ou des directions des établissements dans la démarche qualité. Quel rôle doivent-ils jouer? Est-ce qu'ils doivent imposer une démarche, une vision dans dans une logique top-down ou est-ce qu'ils doivent concerter intensément les équipes pour être sûr que la vision qualité qui est portée par l'établissement est partagée et qu'il y a une compréhension commune dans l'ensemble des équipes sur les enjeux de la démarche qualité. Ce point est revenu très très souvent et ça a fait l'objet quand même de pas mal de discussions et de divergences, certains estimant par exemple que les équipes dirigeantes doivent effectivement parfois imposer, que tout ne peut pas toujours être discuté, mis en question, etc. Certains disant même qu'il y avait des limites à la participation et à la concertation, alors que d'autres disent que dans les établissements d'enseignement supérieur, l'imposition d'une démarche qualité par le top management ne peut pas aboutir et va faire l'objet de résistances qui n'aboutiront à rien. Autre point extrêmement important, c'est celui du lieu, donc de la responsabilité de la qualité. Est-ce que la qualité doit être disséminée dans tout l'établissement, prise en charge par tout le monde, hein, est-ce qu'elle doit être dispersée, est-ce qu'elle est l'affaire de tous, ou est-ce qu'il y a des responsables, des services, qualité, personnes qui doivent s'en occuper, permettant aux autres de ne pas devoir s'en préoccuper. Là, il y a eu quand même l'idée a été défendue par certains participants qu'il était important d'aboutir à terme à ce que la démarche qualité soit intégrée de manière transversale dans le management de l'établissement et que donc la responsabilité de la qualité, elle est là. Enfin, je terminerai en disant que le quatrième point, c'est la question des causes et des effets externes et internes de l'évaluation. Le débat de ce matin, je pense, l'illustre. Il est vrai que très souvent dans les analyses en groupe, pour expliquer les difficultés liées à la mise en œuvre de la démarche dans les établissements, on a invoqué les effets externes et donc notamment le contexte politique. Hein. On a invoqué le fait que, par exemple, pour ce qui concerne les hautes écoles, le fait d'avoir tout le mouvement lié à la réforme du paysage, tout le mouvement de rassemblement des établissements dans des grandes structures, etc., a aujourd'hui encore des effets négatif sur la mise en œuvre d'une démarche qualité, parce que les tailles des établissements sont devenues plus importantes et parce qu'il y a un décalage entre les management, les directions et les équipes. Mais on a aussi beaucoup invoqué la dernière réforme du décret paysage qui a épuisé les équipes, mobilisé les équipes dans un nombre considérable de réunions, de telle sorte qu'à un moment donné, trop c'est trop, et que de devoir mener tous ces dispositifs de collectifs, de concertation, etc., en même temps et en parallèle, a été délétère pour la mise en œuvre du processus qualité dans les établissements. Enfin, le contexte, c'est aussi bien évidemment, et ça a été discuté ce matin, c'est l'idée que ces démarches qualité, ce sont des normes européennes qui sont imposées aux établissements qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour se les approprier et pour les interpréter selon leur logique, leur propre logique et leur propre finalité. Pour ce qui est des facteurs internes qui ont souvent été mobilisés dans les analyses en groupe, qui ont fait l'objet de pas mal de débats, c'est la question de la communication et de l'articulation. Donc, très souvent, on a invoqué, pour expliquer les difficultés, l'idée que c'est parce qu'on communique mal et qu'on communique peu entre différents types d'acteurs. Mais cette interprétation en termes de communication n'était pas tout à fait unanime, dans le sens où certains ont dit au contraire on communique trop, hein, mais pas au bon moment ou pas aux bonnes personnes. Et à cette analyse en termes de déficit, en termes de communication, de la démarche et de ses résultats, certains ont opposé l'idée que le problème essentiel dans les établissements d'enseignement supérieur, avec des dimensions évidemment variables selon les types d'établissements, c'est beaucoup plus un problème d'articulation, que ce qui fait défaut, c'est l'articulation entre les niveaux d'action, entre les types d'acteurs, et que c'est ça qui est le plus problématique dans les établissements. Voilà.